Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Il est 8h49 ce matin, les grands débats se transforment en grand hommage à Jean-Pierre Pernaut avec Françoise Degoy qui est avec nous. Hein. Vous savez que vous voulez témoigner 0826-300-300, j'en profite pour dire que Valérie Expert va réserver cet hommage durant toute son émission, donc j'imagine que vous pouvez l'appeler aussi et d'ores et déjà vous inscrire. Et pour en parler ce matin, dans un instant, Jacques Pessy sera avec nous, animateur Les Clés d'une Vie tous les soirs à 21h sur Sud Radio, qui connaît tout, hein, des stars.
Oh oui,
en attendant, un qu'il connaît bien aussi, et c'est le fondateur et créateur du e-trophée Andro, c'est Max Mamers. Bonjour Max.
Bonjour.
Bonjour.
Max, la famille Pernaut dans le e-trophée Andro, avec lesquels Sud Radio est partenaire, est très connue, hein, justement sur la piste, puisque le père et les deux fils jouent sur les terrains de glace.
Oui, il n'y a pas que Olivier et Tom qui sont les deux enfants. Aussi Nathalie avait à l'époque été marraine du trophée Andros féminin, et elle avait fait aussi quelques saisons. Et c'est certainement parce que il était à la traîne de cet événement qu'il a voulu goûter à ça. Et je me souviendrai toujours la première fois qu'il est venu, je l'ai vu à l'Alpe d'Huez, il regardait son fils Olivier courir, et il m'a dit « mais jamais j'y arriverai ». Je lui ai dit « écoute, je te promets que si, on va essayer ». Et je l'ai invité à une course à Saint-Dié-des-Vosges, ça lui a plu, et il a disputé, en 9 saisons, il a disputé 111 courses avec les grosses voitures en 4 roues motrices, et c'était vraiment... un fervent défenseur et supporter du trophée Andros.
Et oui, et ce qu'il attendait par-dessus tout, c'est la victoire d'Olivier. Elle est arrivée à Isola 2000.
Cette année, elle est arrivée, effectivement, avec la voiture Andros, en plus. Et Olivier, je sais, lui a envoyé un message. Et il était déjà, je dirais, en difficulté sur le plan de la santé. Il y avait des jours qui n'allaient pas bien, et il aurait dit que c'était un des plus beaux jours de sa vie.
Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, Tom a pris le relais de son papa, mais est rentré aussi dans la course du e-trophée Andros.
Oui, il est venu 2-3 fois. C'est ce qui est assez remarquable, c'est que la première course qu'il a pu disputer en 2 roues motrices, c'était une course d'invité, bien sûr, comme son papa, et quand il était venu la première fois, mais il l'a quand même remporté, il a gagné la première course à laquelle il a disputé. Bon, je sais que maintenant, il est dans une école, il fait des études dans une école de commerce à Lille, il n'a pas trop le temps.
Ouais.
Et quand il voudra, il pourra dire, ils auront tous cette tâche de dire ma première course, ma première licence, c'était le trophée Andros.
Oui, il en parlait aussi beaucoup dans les journaux de 13h.
Ah oui, il en parlait parce que c'était un fervent. Il y avait tout dans le trophée Andros pour lui. C'est-à-dire qu'on allait dans les montagnes, dans la France profonde qu'il aimait. Et puis, c'était la convivialité. Et en même temps, il y avait la compétition qui était très sérieuse. Et puis aussi...
L'expertise.
Il a toujours été le défenseur de l'automobiliste, de l'auto en général. Souvenez-vous,
tout récemment.
Les fameux 80 km à l'heure.
Oui, ça c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup Max Mamers d'avoir été avec
Merci
nous, créateur du e-trophée Andros, pour ce moment d'hommage à Jean-Pierre Pernaut. Et bien sûr, on suivra la compétition continue, bien sûr, comme chaque année depuis 2 ans avec Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous, et on accueille Jacques Pessis, qui est un peu le spécialiste. Il connaît tout sur tout le monde. Bonjour Jacques.
Bonjour Jacques.
Bonjour Cécile, bonjour Benjamin.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler effectivement de Jean-Pierre Pernaut, qui nous a donc quitté, je le rappelle, à 71 ans. C'était pour vous un journaliste un peu impar, qui symbolise d'une certaine façon ce journalisme un peu à l'ancienne, malheureusement qui existe de moins en moins, quoi.
Oui, il était très à part, alors que tout le monde devrait faire comme lui, c'est-à-dire que c'était quelqu'un d'abord... qui avait été formé sur le terrain. Bon, il avait fait une école de journalisme, mais surtout après, il avait appris son métier au bas de l'échelle, au Courrier Picard. Il avait fait le journal télévisé régional, où il avait appris les trucs de la télé. Ensuite, il avait fait tout ce qui est possible et imaginable à TF1 jusqu'en 87, c'est-à-dire le 20h, des émissions. Et surtout, il avait trouvé un style que personne n'avait, et qui est pourtant le style classique de ce que devrait être le journalisme, c'est-à-dire parler aux gens, vérifier les informations, donner des informations avec l'instinct d'un journaliste pour dire voilà, ça, ça va toucher le grand public, mais pas forcément l'élite, et ce qui est important, c'est le grand public, et surtout, tout était vérifié, et en plus, il savait parler aux gens, et c'est pour ça que les gens l'aimaient.
Avec cette proximité du terrain, vous le disiez, parce que il en venait, mais il aurait pu changer avec le temps. Il a toujours gardé ce contact là. Il y avait cette importance pour lui du contact finalement avec les gens, d'être proche des Français finalement, d'être comme eux.
Mais...
pas au-dessus.
Il était comme eux. D'abord, dès qu'il vous rencontrait, il vous tutoyait. C'était une façon de se parler. Et il y avait une complicité. On ne pouvait pas ne pas être complice, ami avec lui dès la première seconde. Et surtout, pourquoi il parlait bien au public? C'est parce qu'il n'y avait pas de prompteur. Il n'y avait pas de texte écrit. Il avait une des bases et après, il parlait aux gens. Et ça, c'est rarissime. Et c'est la base de ce que devrait être la télévision et la radio aujourd'hui.
Ouais. Justement, Jacques Plessis, bon, on va écouter, c'est Clément Barguin qui a eu hier Gilles Boulot qui parlait un petit peu du journaliste qu'il était, Jean-Pierre Pernaut. On l'écoute, Gilles Boulot.
Il avait un pif incroyable, incroyable. Il sentait où l'actualité allait nous mener. Et donc à chaque fois qu'il y avait une décision politique, un conseil des ministres, c'est pas qu'il trouvait ça pas important. Il disait ok, très bien, très bien, très bien. Il faut traduire ça dans le réel. Traduisons ça dans le réel. C'était sa phrase. Allons dans une commune, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Qu'est-ce que les gens ont compris de ça? Comment ça va changer leur vie? Est-ce que c'est le énième plan de ceci, de cela? Auquel cas ça n'a aucune importance. C'est que de la gesticulation politique. Donc c'était un très, très, très grand journaliste et un bonhomme génial. Génial, un ami formidable. Qu'est-ce qu'il va nous manquer? Moi, il va beaucoup me manquer. Qu'est-ce qu'il va manquer à notre maison? Il a été l'identité de TF1.
Gilles Boulot, qu'on entendait à l'instant. Oui. Françoise Degoy, qui est avec nous également. Le journaliste, vous retenez quoi justement de sa manière d'être un journaliste,
hein? Deux choses de Jean-Pierre Pernaut. Moi, je ne suis pas comme Cécile, qui est un véritable ami de Cécile de Médibus, même si elle ne le dit pas depuis ce matin. Elle est quand même très émue de cette disparition, ma chère Cécile. Donc, moi, je n'ai pas du tout ce lien. Pour l'avoir croisé sur le rooftop, c'est-à-dire le... comment dirais-je, le toit de TF1 en fumant des cigarettes, malheureusement, ce qui l'a tué, je dirais que ce qui me donnait comme sentiment immédiat, c'était d'être exactement dans la vie comme il était dans son journal. Et je pense que l'explication de cet amour des Français pour cet homme,
c'est
est liée à cette sincérité. Il n'y avait aucun décalage entre le Pernaut que vous voyez à l'antenne et le Pernaut qui buvait des cafés avec vous ou fumait des cigarettes sur le toit de TF1. La deuxième chose, c'est que j'ai un souvenir, parce que personne ne s'en souvient. Le premier journaliste, pourtant on était en plateau 24 heures sur 24 pendant le Covid, le premier journaliste qui dit les masques ne servent à rien probablement parce qu'on n'en a pas, c'est Jean-Pierre Pernaut dans le 13h.
Oui.
Personne ne s'en souvient, mais c'est lui le premier qui met en lumière ce mensonge et cet arrangement du gouvernement en une simple phrase.
Ouais, ouais,
les masques, pourquoi ne servent à rien? C'est peut-être parce qu'on n'en a pas. Vous vous souvenez de cette phrase?
Ouais,
eh bien, cette
fait.
Phrase-là, elle a complètement, comment dirais-je, changé aussi l'opinion des Français sur la pandémie et sur la façon de gérer cette pandémie. Donc, c'est très puissant quand même. Hein. La gentillesse sincère, je pense, d'un côté vraiment. Et puis... ce pif dont parlait Gilles Boulot, voilà ce que je retiens de Jean-Pierre Pernaut.
Le pif et puis le tutoiement, Jacques Plessis en parlait aussi, cette sympathie de prime abord immédiate. Merci beaucoup Jacques Plessis d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup
vous
Jacques.
Vous aussi et à très vite.
Merci.
Bien sûr.
Et je rappelle que chez Valérie Expert, à partir de 10h, des invités justement pour revenir sur cet hommage à Jean-Pierre Pernaut. Elle nous parlait de Gérard Carrérou, elle nous parlait de Dominique Lagroux, son père, sa complice du 13h, vous savez, dans les derniers moments, qui s'occupait des régions. Philippe Risoli, qui jouait avec Nathalie Marquet les pièces écrites par Jean-Pierre Pernaut. Et puis, dans un instant,
Éric Revel, qui connaissait aussi Jean-Pierre Pernaut bien et qui en parlera aussi de Jean-Pierre Pernaut, de ce qu'il en pensait, de ce qu'il retient finalement de cette figure, de ce journaliste et de cet homme.
Et n'hésitez pas à nous appeler, bien sûr, 0826 300 300 et à vous inscrire pour l'émission de Valérie Expert. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Et aux alentours de 9h30, on reviendra sur la guerre en Ukraine. Est-ce parti pour durer? C'est la question qu'on se pose ce matin. On en parlera avec le général Jean-Bernard Pinatel, qui est général 2e section spécialiste de la Russie. Et puis Philippe Delara, qui est professeur émérite de l'Université Paris 2 et spécialiste justement du totalitarisme et de la modernité.
Bah oui, parce que ça y est, une semaine de guerre en Ukraine. On a franchi le cap de cette première semaine, alors qu'effectivement, on parlait d'une guerre éclair au début. Et puis, forcément, comme ce conflit avance, d'une certaine façon, de jour en jour, il y a cette question d'un côté propagande, contre-propagande. On verra justement toutes ces questions-là de fond dans notre débat. 9h30, rendez-vous 0826 300 300.
On attend bien sûr vos commentaires au standard. Et tout de suite, c'est Revel en campagne.
Sud Radio présidentielle 2022.
Bonjour Éric Revel.
Bonjour Éric.
Bonjour Cécile. Bonjour
avec une tonalité particulière ce matin.
Bah oui, parce qu'on va parler pour le coup de Jean-Pierre Pernaut, mon cher Éric.
Et de la vraie campagne.
Et de la vraie campagne. Des vraies campagnes, au pluriel, effectivement. Et on va commencer par parler du journaliste du 13h. Forcément, c'est l'image qu'on a tous, Éric.
Oui, Jean-Pierre, il avait, on l'oublie, et c'est pas un grand mot, hein, c'est pas être grandiloquent, il avait révolutionné le journal de 13h avant lui. Il y avait une autre star, beaucoup plus, j'allais dire, médiatique, qui s'appelait Yves Mourouzi, qui faisait un journal de 13h classique, en fait, avec de l'info internationale. Sans doute qu'Yves Mourouzi aurait ouvert, évidemment, sur le conflit ukrainien. Et Jean-Pierre, il avait eu cette idée absolument géniale, je trouve, révolutionnaire pour l'époque, c'est que il avait décidé de parler ce qu'il appelait les vrais gens. Alors, il avait fédéré autour de lui, on l'oublie aussi, un grand réseau de correspondants en province. Il s'appuyait sur les grands titres de PQR, la presse quotidienne régionale. Et avec ce réseau de quotidiens en province, en fait, il a fait un journal, on l'oublie, qui a été leader en Europe quand même. Enfin, c'était pas rien. Et en fait, il ne traitait ou très rarement de l'actualité nationale ou politique, politicienne ou internationale, mais il parlait aux gens des sujets qui les intéressaient. Et puis, on l'oublie aussi parce que l'actualité passe vite, mais ça a été un des premiers aussi à comprendre et finalement à incarner dans ces sujets le mouvement des Gilets jaunes, de cette France des territoires, de cette France profonde qui souffrait. Voilà, le 13 heures de Jean-Pierre Pernaut, c'était évidemment un monument, c'était ça. Bon, les hommages pleuvent, mais je voulais revenir sur cet aspect parce que derrière le succès, il y avait un présentateur, il y avait une équipe forte, notamment de correspondants en région. Il y avait une rédac à TF1 que j'ai bien connue qui adhérait fortement. Bon, alors après, Jean-Pierre, il avait évidemment ses coups de gueule, sa personnalité, sa tonalité, il savait ce qu'il voulait et puis surtout, il parlait aux gens.
Justement, il parlait aux gens, il était proche des gens, il y avait ce côté un petit peu anti-star finalement, Éric.
Ah bah oui, pour un journaliste de cette notoriété qui parlait à entre 8 et 6 millions de personnes par jour. Mais vous savez, je pense que le succès de Jean-Pierre, c'est le succès de la sincérité en fait. Vous ne pouvez pas être, quand les caméras s'éteignent, différent de ce que vous incarnez à l'écran, parce que sinon, votre succès télévisuel passe assez vite. Or lui, il avait vraiment, il avait ce goût des autres, il avait ce goût,
empathique,
des savetiers, il avait ce goût du producteur de fromage, il avait ce goût des clochers d'église qui tintent en France. Il était à l'écran comme il était finalement en dehors de l'écran. Et cette sincérité, je pense que c'est aussi une des données essentielle du succès de son trésor.
Apprécié de nombreux Français, et puis du côté de l'intelligentsia parisienne, on va dire, là c'était une image toute différente, l'image du plouc, d'une certaine façon, du plouc réac en fait.
Oui, alors ça on n'en parle pas beaucoup en ce moment, alors puisque Jean-Pierre il poussait des coups de gueule, moi je vais en pousser un aussi, puisqu'on est sur Sud Radio et qu'on parle vrai. Il y a beaucoup de gens qui lui rendent hommage aujourd'hui et qui ont oublié comme par amnésie qu'il n'y a pas si longtemps encore, quand il était aux manettes du 13h, on expliquait que son journal c'était un journal populiste, réac, qui parlait à cette France dont l'intelligentsia de gauche en parlait en se pinçant le nez, vous voyez. Et ça me fait un peu de la peine parce que Jean-Pierre, bon, qui était conscient qu'on le traitait de populiste et qui d'ailleurs disait, bah, si finalement être populiste c'est aimer le peuple, ben allons-y. Mmh. Mais vous voyez, c'est toujours ça au moment des hommages aussi, de personnalités importantes du monde de la télévision ou d'ailleurs qui disparaissent, c'est que les mêmes qui ont critiqué, les mêmes qui écrivaient dans leurs journaux des saloperies sur Jean-Pierre et sur son trésor sont les mêmes qui aujourd'hui disent quel grand journaliste, quel grand journaliste de terrain. Voilà, eh ben Jean-Pierre, c'était un homme de culture au sens large, hein, de la culture des petits musées de province jusqu'à la culture de la terre. C'était ni un plouc ni un réac, et que tous ceux qui l'ont montré du doigt de cette manière-là se souviennent qu'ils l'ont fait et de grâce, bah qu'ils lui rendent pas hommage aujourd'hui, par exemple, ce serait assez digne.
Ou qu'ils s'excusent.
Françoise de Goy,
l'intelligentsia de droite aussi, hein, pardon, Eric, mais il y a pas que l'intelligentsia de gauche.
Ah mais
qui
ne
a...
vous sentez pas visé, ma chère
Françoise. Non, pas du tout. Moi, j'aimais beaucoup Pernaud, alors moi, je n'ai jamais pris pour un plouc, ni pour ce que ce soit. Franchement, honnêtement, je viens des locales de Radio France, alors j'aurais du mal à ne pas aimer le 13h de Jean-Pierre Pernaud.
J'ai bien connu aussi.
Bah, bien sûr, voilà, on est de la même marmite, mon cher ami. Donc, on sait où est-ce qu'on a appris notre travail, en local. Il faut quand même le dire et le rappeler. Il y a beaucoup de journalistes que vous entendez aujourd'hui sur les chaînes nationales qui ont commencé par la tournée des locales. Et je peux vous dire que ça vous forme n'importe quel journaliste. Donc, moi, j'aimais beaucoup
c'est
cette idée.
C'est comme ça qu'on apprend.
Hein. Oui, mais je suis assez d'accord sur le bal des faux culs. Mais après, qu'est-ce que vous voulez, Eric ? On dirait que vous ne savez pas que c'est la loi du genre.
Mais est-ce que ça a changé ?
Si, mais Jean-Pierre en a souffert. Jean-Pierre en a souffert. Donc,
pensais que ça
il faut
glissait.
Quand même le dire. Il
savez,
faut quand
moi,
même
je pensais
le dire.
Que ça glissait comme sur les plumes d'un canard.
Je lisais un papier dans Libé, hommage à Jean-Pierre Pernaud. Vous savez, la Libé, c'est-à-dire, on rend hommage, mais tout
mais
en rappelant qu'on a été.
Sur...
Voilà. Et ça m'écœure un peu. Voilà. Mmh. Mais bon, allez, c'était mon coup de gueule. J'en pousse pas souvent. Alors, je sais pas si Jean-Pierre aurait aimé, mais en tout cas, comme il en poussait aussi, je dis ça ce matin parce qu'on est sur Sud Radio et qu'on parle vrai.
Exactement.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut. C'est le retour peut-être d'un journalisme un peu plus moins, ou la fin peut-être
ouais,
où on se pince pas le nez justement.
Moi, je crois, on va pas faire une conf sur l'évolution du métier de journaliste, mais je pense que le métier de journaliste, il est en train un peu de se perdre pour des tas de raisons. Le digital, les réseaux sociaux, le fait que, Françoise le disait, on a appris notre métier sur le terrain. Moi, j'étais au local du Parisien avant, tout au début, quand le Parisien était encore en noir et orange et qu'il fallait faire des tests couleurs pour qu'il passe à la couleur. Moi, j'étais à Fontenay.
Moi, j'étais avec les Nagras, on découpait au ciseau,
C'est que j'ai l'impression que le métier se perd un peu, que le métier se paupérise, que il y a plus les mêmes moyens dans la rédaction pour vous envoyer 15 jours comme je faisais après à Cuba ou à Krasnoïarsk, en Sibérie. Tout ça, c'est fini par manque de moyens, parce que les réseaux sociaux tuent aussi le métier, parce que tout le monde devient journaliste, croit devenir journaliste. Voilà. Et moi, je suis un peu inquiet de l'évolution de ce métier parce que j'ai l'impression que, maintenant les gamins ou les gamines, ils sont devant un écran. Alors nous, on bâtonnait de dépêche aussi parfois pour faire des papiers, mais ils sont devant un écran, ils sont sur un réseau social, on leur demande pas beaucoup plus finalement, et puis la presse écrite quotidienne se meurt, et puis la presse magazine écrite est en difficulté. En fait, il y a une vraie remise en cause, me semble-t-il, de notre métier, et j'ai pas l'impression que ça aille vers le meilleur. Le journalisme de terrain, Françoise a raison, c'est à mon sens, la meilleure chose qui peut arriver à un journaliste, c'est de comprendre sur le terrain ce qu'est son métier, comment il chope une info, comment il la vérifie, comment il la met en scène, etc. Mais tout ça est en train de se perdre.
Eh ben, c'est une très bonne transition.
Patrick Roger vient des locales aussi, je tiens quand même à dire.
Vous avez raison, Eric Revel, de dire on va pas passer toute la matinée de toute façon sur le métier de journaliste, mais c'est vrai que pour certains auditeurs, c'est important. On connaît pas forcément ce métier-là, qui est critiqué, et parfois à raison. Juste d'un mot pour conclure sur ce sujet-là, avant de passer sur un autre sujet, François.
Tout est question de culture, et ce que je dis toujours à mes élèves de l'école de journalisme, c'est pas tant le fait qu'ils soient sur le numérique, c'est qu'il faut lire, il faut se cultiver. Moi, j'ai des élèves qui sortent, certains élèves sortaient de Sciences Po, ne savaient même pas ce qu'était la première phrase de la recherche du temps perdu. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, ça ne va pas. Donc, il faut surtout redonner, je pense, à la jeunesse le goût de lire, de se cultiver, d'aller dans les musées, de s'intéresser. Et moi, je pense justement par rapport, pour reboucler avec Jean-Pierre Pernaud, je crois vraiment que, alors lui, était quelqu'un qui avait une immense culture, sous des airs, peut-être de plouc, enfin, en tout cas, ce que voulait lui coller comme étiquette, mais c'est quelqu'un, on sentait, qui était extrêmement cultivé.
Et je passe à l'autre.
Je passe à Cécile de Mélibus, qui est une vraie amie de Jean-Pierre Pernaut, et qui, évidemment, n'a pas beaucoup parlé, je trouve, ce matin pour ça.
Eh ben, je vous laisse faire, vous le faites si bien. Restez avec nous dans un instant. On ira justement sur le terrain avec ces journalistes qui s'engagent. Et il s'appelle Nils Ackermann, photojournaliste.
Qui était beaucoup en Ukraine, qui est suisse et qui a passé pas mal de temps en Ukraine. Il nous parlera justement comment ça se passe là-bas. Et puis juste avant, on verra avec Éric Revel et Françoise de Goix, Emmanuel Macron, le point d'interrogation, bon, plus ou moins point d'interrogation sur sa candidature. Comment, quand, de quelle façon, dans un instant sur Sud Radio, on voit ça.
A tout de suite, 9h16.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Il est 9h18, la suite des grands débats ce matin avec Françoise de Goix et Éric Revel. Vos appels 0826 300 300, on va revenir sur l'allocution d'Emmanuel Macron d'hier.
Ben oui, hier soir à 20h, bon, on fera peut-être un petit point sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook dans un instant avec vous Cécile, parce que c'était l'une des questions qu'on vous posait ce matin. Alors Éric Revel, on a écouté tout à l'heure dans son édito politique Françoise de Goix sur ce sujet-là, sur cette allocution. Édito d'ailleurs à retrouver bien sûr sur sudradio.fr en l'occurrence et puis sur nos réseaux sociaux. On avait quoi hier? On avait un chef d'État sur un ton solennel ou on avait un candidat, un quasi-candidat finalement qui fait son service après-vente pour sa réélection?
Les deux, mon général, puisqu'on est dans le lexique militaire. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'éditorial ce matin sur Sud Radio de Françoise. Elle conjugue, et elle a raison, à tous les temps, le verbe « enjamber ». C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ses papiers. Mais là, pour le coup, elle a tout à fait raison. Évidemment, je ne vais pas minimiser le rôle d'un chef d'État lorsque on est dans la situation militaire dans laquelle on se trouve. Évidemment, il est aussi le chef des armées. Mais sa difficulté sur cette première partie de son discours, c'est d'être à la fois un chef de guerre et un chef de paix. Il tacle Poutine, mais il respecte le peuple russe. Donc c'est déjà un exercice d'équilibriste. Et puis la deuxième partie, quand vous écoutez bien, c'est évidemment d'annoncer qu'il est candidat, qu'il enjambe, comme dit Françoise de Goix, cette élection présidentielle, qu'il se projette. Il est servi, et là je suis un peu cynique, mais on est aussi en campagne présidentielle, donc il n'y a pas de raison de ne pas faire de la politique. Et il n'y a pas de raison d'imaginer qu'Emmanuel Macron ne se serve pas de ce genre d'adresse à la nation pour faire de la politique. Donc en réalité, quand il convoque effectivement pour épater la galerie un sommet européen à Versailles, en termes d'image, mais c'est juste exceptionnellement prodigieux pour lui. D'ailleurs, même s'il a commis des erreurs, en admettant évidemment que Poutine lui ait menti, ce qu'on peut croire. Mais enfin, on a vite oublié qu'il nous avait annoncé une désescalade. On a vite oublié qu'avant que Poutine ne rentre en Ukraine, il nous avait dit qu'il avait obtenu un face-à-face, un sommet Biden-Poutine. Bon, tout ça est passé à la trappe. Tout le monde se range derrière, le panache blanc d'Emmanuel Macron. Il est à la fois en campagne. Il est dans son rôle de chef des armées, de chef de guerre et de chef de paix. Mais d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la guerre, si vous regardez historiquement, quels que soient les conflits dans lesquels l'Europe ou d'autres pays ont été plongés, à chaque fois ça se termine par une négociation. Donc si on pouvait gagner du temps et des vies en accélérant cette négociation, en donnant toutes les chances à cette négociation, ce serait quand même extraordinaire. Maintenant, bon, personne ne sait où Poutine, évidemment, va s'arrêter dans sa folie expansionniste. Et puis j'ajoute Emmanuel Macron... finalement donne aussi l'impression d'avoir appris de quelques-unes de ses erreurs. Il n'a pas été du tout sur un ton va-t-en-guerre hier. Ça, j'ai apprécié. Mais encore une fois, ne soyons pas naïfs. Nous sommes en campagne présidentielle. Il n'y aura pas de campagne. Il n'y aura pas de débat sur le bilan. Il n'y aura peut-être même pas un projet du président candidat à présenter aux Français. Et il se sert, passez-moi l'expression, de cette page historique, pour sans doute et gagner des points dans les sondages, on le voit, et penser qu'il va être réélu facilement.
Oui, c'est pas forcément, ça peut être inquiétant pour la suite s'il est réélu sur son second mandat. Début de second mandat, ça peut être très tendu à ce sujet-là s'il n'y a pas de vraie campagne.
Avec pas mal de messages sur la question du jour, Emmanuel Macron, vous êtes-il convaincu hier soir? Vous dites non à 54% et vous êtes 41% à dire que vous n'avez pas regardé. Jackie Bordage nous dit Emmanuel Macron ne convainc pas et ne convaincra jamais. Son entrée dans l'histoire a commencé par l'arrogance et se terminera par du Saint-Doux dans l'escalier. Et il va dans le sens aussi d'Éric Revel qui qui dit « La guerre en Ukraine l'a fait mûrir un peu, mais toujours en refusant la vie des Français. » Et puis Villeneuve nous dit « Ce qui compte, ce sont les faits. » Bruno Le Maire dit « La vérité, Poutine siffle et Macron rentre à la niche. » Voilà l'action de la France macroniste.
Françoise Degois.
Moi, je suis... Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je pense que hier, ce qu'il a fait, c'est terriblement politicien. Il a balayé comme s'il s'agissait d'une anecdote. En réalité, la campagne présidentielle, le débat aura lieu. Éric Revel a raison, il n'y aura pas de débat. A priori, comme ça. Maintenant, c'est aux oppositions et c'est tous les candidats d'exiger ce débat. C'est à tous les journalistes de l'exiger. Moi, je ne peux pas entendre le robinet de louanges de « toi, grand Emmanuel » au Congrès de Versailles, comme tout ce que j'ai entendu hier soir. Honnêtement, j'étais partagé entre le rire et vraiment la désespérance. Il n'y a plus de recul sur l'action d'Emmanuel Macron. Il ne doit pas échapper au bilan et à la présidentielle. Et vous avez raison de le dire, Benjamin, même pas pour le résultat de l'élection, mais pour la suite. Les problèmes ne sont pas réglés. Le château de Versailles, c'est complètement... voilà, c'est ça le truc de trop, vous comprenez. On va être en guerre et on va avoir... On pouvait très bien faire cela à Bruxelles. Non. Il le fait évidemment à Versailles parce que c'est son décorum à lui. Une sorte de super meeting qui va coûter un pognon de dingue. Un super meeting par le haut avec, tout ce que l'Europe compte de dirigeants. Moi, je trouve que ça procède encore plus profondément au nom de la communication d'une cassure encore plus profonde qu'il va falloir réparer, qu'on le veuille ou pas. Emmanuel Macron réélu, je n'en sais rien. Pour le moment, les sondages le donnent très largement en tête. Nous verrons. La seule question, c'est aller voter le 10 avril.
Dans un instant, on a Nils Ackermann, photojournaliste suisse qui a été à de nombreuses reprises en Ukraine, qui a vécu. Il nous attend. On va l'accueillir dans un instant. Mais d'abord, justement, question très simple, réponse très rapide. Et Éric Revel, c'est quoi la meilleure option qui s'offre à lui, à Emmanuel Macron, avant de parler de réélection, pour sa candidature, l'officialisation de sa candidature?
Bah, y aurait une certaine, je sais pas, indignité, vu le contexte international, à ce qu'il serve d'une nouvelle prise de parole. Et là, ça, il a pas la fenêtre de tir pour reprendre la parole et pour annoncer sa candidature. Donc, peut-être qu'à situation exceptionnelle, annonce de candidature exceptionnelle, on peut envisager, pourquoi pas, qu'il envoie simplement un courrier au Conseil constitutionnel pour dire qu'il est candidat. Il en a tout à fait le droit. Voilà, ce serait un peu dans la veine du chef martial, du chef des armées. Maintenant, juste un mot, Françoise. Je comprends ce que vous dites sur le décorum royaliste du château de Versailles. Je trouve aussi que, il fait de la politique politicienne, mais je trouve aussi que ce décorum donne aussi le sentiment pour beaucoup de Français qu'on est encore dans la puissance, dans l'histoire d'un pays. Je vois bien ce que vous dites sur « il va amuser la galerie », je comprends bien tout ça, mais ça donne aussi peut-être une dimension dans ces moments compliqués, à la France, et à se passer. Alors maintenant qu'un président de la République de la 5e s'inscrive dans la tradition monarchique et royaliste, ça n'étonnera personne. Mais voilà, je me posais la question. Le décorum, il donne aussi une impression, peut-être qu'on a pu, une impression de puissance et d'histoire installée.
Mais tout est faux. Mais vous comprenez, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas continuer à boursoufler. Ce qui nous tue, et ce n'est pas simplement Emmanuel Macron, je termine rapidement, pardon Benjamin, ne me faites pas les gros yeux, ce qui nous tue, ni Cécile, ce qui nous tue, c'est la communication. Ce n'est pas Emmanuel Macron le premier. Vous comprenez bien que quand on communique et qu'on gouverne par communication, et Versailles est un summum de communication, mais il n'y a pas que lui, Barack Obama, etc., nous perdons le sens et la substantifique mal. Pourquoi nous sommes dans cette fracture aussi? Parce que les gens ne sont pas idiots. Tout le monde a compris que Emmanuel Macron soit un meeting à Versailles. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer quoi? Les gens qui vont dire « je ne vais pas aller voter », ça ne changera rien parce que ça ne changera rien à la réalité de la puissance.
On a oublié qu'il avait accueilli également Vladimir Poutine à Versailles.
Oui, mais il le fait
qu'il avait accueilli Vladimir Poutine à Versailles.
C'est ça. Vous avez
pour le résultat qu'on sait.
Le rappeler,
merci
Revel.
Beaucoup, Françoise Degois. Merci, Éric Revel.
Vous avez les grands yeux, Françoise Degois, vous inquiétez pas. Je vous en
merci, c'est trop sympa.
Allez, tout de suite, on passe à notre nouvelle invitée.
À notre invité, Nils Ackermann est avec nous, photojournaliste suisse et cofondateur de l'agence Lundi 13. Il travaille en Ukraine depuis 2019. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, Nils Ackermann.
Bonjour. Depuis 2009, hein, pas depuis 2019.
Oui, ça a été depuis 2009.
Et puis, pardon.
Et puis vous avez passé quelques années, effectivement, en tout cas par le passé, en Ukraine. Expliquez-nous un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes depuis le début de cette guerre en Ukraine. Beaucoup d'émotions, j'imagine, vous qui connaissez bien ce pays et ses habitants.
Oui, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a deux personnes en moi en ce moment. Il y a le journaliste d'un côté qui est obligé de parler de ce qui se passe dans le pays. Et puis, il y a l'être humain qui a vécu... Enfin, j'ai consacré un tiers de ma vie à ce pays.
Ouais.
J'ai découvert un petit peu par accident. Et j'y ai beaucoup d'amis. J'y ai une partie désormais de ma famille aussi. Mmh. Et c'est vrai que du coup, je suis ce qui se passe avec ces deux angles. D'un côté, j'ai envie de relayer des informations les plus précises possibles. Mmh. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a aussi une partie qui est... humainement touché par ce qui est en train de se passer sur place.
Mmh, bien sûr. Ce dont on parle beaucoup depuis en tout cas plusieurs jours déjà, depuis les premières heures même de la guerre, c'est d'une certaine façon, l'esprit de résistance de ce peuple ukrainien. Comment vous avez vécu, vu en fait cet esprit-là? C'est un esprit de résistance ou on va dire un national qui était déjà présent depuis quelque temps ou qui s'est révélé, renforcé à travers cette agression?
C'est quelque chose que j'ai découvert en 2014 durant la révolution de la dignité.
Ouais.
J'ai connu les Ukrainiens jusque-là extrêmement calmes, extrêmement respectueux. C'est vrai que pour connaître un peu les manifestations que vous avez régulièrement en France, où on voit des voitures qui brûlent quasi systématiquement, j'ai toujours été impressionné par le côté extrêmement respectueux de la population ukrainienne qui, quand elle manifestait, par exemple, s'en tenait vraiment à son but précis et évitait tout dommage collatéraux. Mmh. Et j'étais impressionné pendant la révolution de Maïdan de voir à quel point ce calme, tout d'un coup, avait pu être canalisé en une énergie collective très forte et en une, je dirais, une absence de peur, ou en tout cas, des convictions qui supplantent la peur. Pour vous donner un petit exemple, il y avait eu, parce que la révolution de Maïdan, qui ensuite est devenue la révolution de la dignité, ça a commencé par une petite manifestation sur la place par des manifestants, des journalistes et des activistes. Et puis, suite à une intervention policière extrêmement violente, ça a monté en puissance, avec aussi du côté des autorités beaucoup de mesures très fermes. En janvier 2014, il y avait eu des lois dictatoriales qui avaient été passées et qui autorisaient énormément de choses de la part de la police, notamment du tir à balles réelles. Et à ce moment-là, je me disais, OK, ils vont s'arrêter. Moi, avec mon regard de Suisse, très conservateur, très protecteur, je me disais, c'est la fin. Et en fait, non, le mouvement a regagné en intensité, a redoublé d'intensité. Et certains amis me disaient à l'époque qu'il y avait un jour où il y avait un ultimatum sur la place Maïdan. Si tel jour vous êtes sur la place, la police a le droit de vous tirer dessus. Et les gens se ruaient dans le métro pour être sûrs d'être à l'heure sur la place Maïdan pour voir si effectivement ça allait arriver. Et cette détermination... elle est liée à un attachement très fort à la terre. C'est une population qui a subi au cours des derniers siècles de nombreuses tentatives d'oppression sous le tsar, sous l'Union soviétique, et maintenant on le voit aussi avec le voisin russe. Et c'est vrai que cette population, elle a toujours été extrêmement résistante, donc c'est inscrit dans leur gène. Et ces images qu'on voit en ce moment de populations civiles non armées qui se mettent face à des tanks, qui se mettent face à des convois militaires, c'est extrêmement impressionnant. Et plus le temps passe, moins ça me surprend, mais ça ne me touche pas moins pour autant.
Nils Ackermann, il y a ce sentiment national d'une part, il y a la question de l'armée aussi ukrainienne de l'autre. C'est vrai qu'on aurait pensé... au début, entre l'armée ukrainienne et l'armée russe, à une sorte de conflit éclair avec l'aviation ukrainienne qui a été très rapidement neutralisée, finalement. Qu'est-ce qui explique que ça tienne? Cette armée, elle est quand même... ça veut dire qu'elle s'est modernisée, qu'aujourd'hui, elle peut tenir face à l'armée russe. Comment elle fait? Tout en disant, bien sûr, on y reviendra dans un instant, mais que, notamment, c'est la ville de Kherson qui est tombée ces dernières heures dans le sud du pays, une des grandes villes en Ukraine. Donc,
Mariupol est aussi extrêmement exposée.
Oui.
L'armée ukrainienne que je, que, enfin, l'armée ukrainienne en 2014, c'était une ruine absolue, avec une hiérarchie soviétique, avec aussi beaucoup de personnes dans la hiérarchie qui travaillaient plus pour Moscou que pour Kiev, avec des équipements en mauvais état, vraiment un sous-investissement, des soldats mal payés et des soldats qui finalement ne savaient pas exactement pourquoi ils se battaient. C'était encore en 2014 un pays parcouru par beaucoup de lignes de fraction, de lignes de fracture au niveau des questions linguistiques, religieuses et tout ça. Donc, pour les soldats ukrainiens qui devaient défendre, par exemple, la Crimée en 2014, il n'y a pas une très grande motivation. Et une image qui m'impressionne, en fait, en voyant en ce moment l'uniforme, l'équipement, l'entraînement et la motivation des soldats russes qui sont en train d'envahir l'Ukraine, eh ben, c'est que j'ai l'impression de revoir, en fait, les soldats ukrainiens de 2014.
Ah, merci, ouais.
J'ai l'impression de voir une armée qui n'a pas réussi, heureusement pour l'Ukraine, à se moderniser. Beaucoup d'observateurs sont surpris d'ailleurs de ne pas voir certains des équipements très modernes qu'on voit défiler sur la place rouge chaque année. On voit de l'équipement assez ancien, à part quelques objets un peu plus récents. Mais surtout, on voit au niveau de la main des ressources humaines que voilà, ces soldats sont très mal payés, mal nourris, mal équipés, et qu'ils ont face à eux une armée ukrainienne qui, au cours des 8 dernières années, s'est rapproché de l'Ouest. C'est un rapprochement qui est venu par la force des choses. En 2014, les Ukrainiens ne voulaient pas adhérer à l'OTAN. En 2014, il n'y avait que 18% de la population qui était favorable à un rapprochement avec l'OTAN.
Ouais.
Et c'est
ça a changé, hein.
Le déclenchement du conflit à l'Est, l'occupation de la Crimée, qui a poussé ce pays à moderniser son armée, son économie, beaucoup de choses. Et je ne peux pas faire de pronostics pour dire est-ce que cette armée ukrainienne est suffisamment forte maintenant pour battre une des plus grosses armées au
Bien
monde.
Bien sûr, ouais.
Mais en tout cas, c'est vrai
En tout cas, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui et les explications, en tout cas, que vous en tirez. Et je vous remercie, Nils Ackermann, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour toutes ces précisions. C'est un plaisir, en tout cas, de vous recevoir ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, photojournaliste suisse, cofondateur de l'agence Lundi 13. Vous travaillez sur l'Ukraine depuis, vous avez passé, c'est un tiers de votre vie à travailler sur ce pays. Son projet, votre projet, L'Ange Blanc sur la jeunesse vivant à proximité de Tchernobyl, je le rappelle, a reçu de nombreux prix internationaux. Merci à vous et Absolument. Bonne journée.
Et on continuera sur ce sujet, sur cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'elle est partie pour durer? On en parlera avec des experts dans quelques instants.
La prolongation de ce qu'on disait, justement.
Absolument. A tout de suite, c'est le Grand Matin Sud Radio, il est 9h35.